Donc, je dis, dans les alentours du jardin, dans les alentours, pardon, du jardin au parc. Et donc, je vais vous parler de la transmission d'informations, donc entre équilibre révélateur et comportement moutonnier, et de la monnaie unité de compte, et de la règle de la fameuse règle de Taylor. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la classe de modèles à laquelle j'ai fait allusion, que j'ai décrite de façon assez rapide, assez synthétique, mais il s'agit évidemment de quelque chose d'assez abstrait, j'en suis tout à fait conscient, maintenant qu'il n'est pas en dehors des choses qui sont à l'arrière-plan de notre sujet, hein, c'est même tout à fait à l'arrière-plan de notre sujet, je peux difficilement ne pas en parler, parce que je crois que c'est une bonne manière pour aborder ce sujet de façon un petit peu synthétique. Dans le modèle qui est là, il n'est pas du tout clair ce qui se passe lorsque les agents ont de l'information. Ce qui se passe sur les marchés lorsque les agents ont de l'information. Est-elle transmise par les prix ou est-elle transmise par les actions? Alors, je vais d'abord vous donner un argumentaire d'une variante très simple de ce monde dans lequel il y a de l'information qui est transmise par les prix. Et dans lequel, d'une certaine manière, le système fonctionne mieux que ce que je déduirais de mon modèle canonique. Parce que dans mon modèle canonique, je dis chacun va sur le marché. Je n'ai pas été très précis. Maintenant, je vais essayer d'être obligé d'être un tout petit peu plus précis. Alors, c'est ça. Alors, le cadre, c'est simplement, imaginons, ça va pas de l'équilibre général très compliqué, hein, il va y avoir seulement une période. Il y a un actif. Et il a une valeur qui est soit grand H. Je ne sais pas si grand H est marqué. Ah non, il n'a pas l'air d'être marqué là. Il a une valeur soit grand H. Donc c'est un actif, vous pouvez penser, je ne sais pas, une action, n'importe quoi. Ou grand B. Mais c'est pas certain. H, c'est la moyenne. B, c'est la moyenne. H et B peuvent être plus ou moins élevés. Alors, H, en fait, c'est la hauteur qu'il y a d'ici à ici. B, c'est la hauteur qu'il y a d'ici à ici. H, ça veut dire haut. Et B, ça veut dire bas. Alors, il y a un risque. Hein, ça, c'est une moyenne. Il y a un risque. Comme j'ai de l'aversion au risque, je vais avoir une demande. Si, par exemple, je sais que c'est H, la valeur de l'actif, si le prix est P, je sais que j'ai un surplus H-P. Mais malgré tout, ce surplus, il est aléatoire. Je ne suis pas du tout sûr. Et en fait, ma demande, ça s'appelle les modèles moyenne variance, elle est égale à H-P sur A, qui est un coefficient d'aversion au risque, multiplié par la variance de H. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de variance, ce nombre-là, au numérateur, au dénominateur, est important. Et si vous avez beaucoup d'aversion par le risque, si petit a est élevé, ce nombre est important. Donc votre demande, c'est H-P, mais divisé par quelque chose qui représente le risque et votre aversion au risque. Alors c'est très simple, je vais pardonner ce modèle, c'est assez simple. Et donc dans mon cas, si je sais que l'actif a la valeur grand H, eh bien ma fonction de demande en fonction de P, je vais supposer que A variance de H, c'est égal à 1, hein, je rends tout complètement simple, je normalise un petit peu les choses, et ma demande, ça va être H-P, c'est-à-dire que, vous voyez, si le prix est 0, bien, je demande grand H, hein, et si le prix est égal à grand H, bien, je ne demande rien. Ça, c'est simplement parce que j'ai fait cette normalisation, hein, simplement, j'ai une demande linéaire, plus le prix est élevé, moins j'en demande. Ça, c'est relativement naturel. Hein. C'est une demande assez standard que je peux établir à partir d'une considération du goût du risque qui sont vraiment très standards. Alors là-dedans, dans ce monde, il va y avoir deux types de gens. Il y a ceux qui sont informés, c'est-à-dire qu'ils ont reçu le signal grand H. Ils savent que cette action, c'est vraiment quelque chose qui va bien marcher. Ils ont reçu un signal, alors ils ne savent pas exact de combien elle va bien marcher, mais c'est une variable aléatoire, grand H plus epsilon, il y a un bruit. Soit ils ont une mauvaise nouvelle, ils savent que c'est B, B c'est relativement bas. Donc si vous avez eu la bonne nouvelle, vous donnez cette courbe de demande, alors je suppose que ce que vous donnez au marché, c'est une courbe de demande. C'est une version un petit peu idéalisée du marché. Donc si vous avez une bonne nouvelle, vous donnez cette courbe de demande, si vous avez une mauvaise nouvelle, vous donnez cette courbe de demande. Et maintenant, si vous n'avez pas de nouvelles, Donc j'ai supposé qu'il y a deux types d'agents. Il y a ceux qui sont informés. Ceux qui sont informés, ils savent soit que c'est grand H, soit c'est grand B. Donc si vous avez l'information grand H, vous donnez cette courbe de demande au marché. Si vous avez cette information grand B, vous donnez cette courbe de demande au marché. Donc si vous ne savez rien, vous, il y avait une chance sur deux que ce soit grand H ou une chance sur deux que ce soit grand B. Bah, vous ne savez rien, vous faites comme si c'était 1,5 de H plus 1,5 de B. Et ce que vous donnez au marché, c'est la courbe en bleu ici, qui est fondée sur une version moins optimiste que si vous saviez que c'était bon, plus optimiste que vous saviez que c'était mauvais. Qu'est-ce que va donner le marché? Bah, ça dépend de la proportion de gens qui sont informés et de gens qui ne sont pas informés. Ça dépend si on est en grand H ou si on est en grand B. Mais vous voyez bien que dans ce monde... Je rends les non-informés un peu trop naïfs. Pourquoi ? Puisque je fais qu'ils font une fonction de demande qui correspond à leur absence d'information. En fait, ces non-informés, ils comprennent bien que s'il y a une bonne nouvelle, la demande va être élevée et le prix va être plus élevé. S'il y a une mauvaise nouvelle, la demande va être plus basse et le prix va être plus bas. Et donc, ce qu'on peut faire, et c'est là je vais dans le sens, le marché... Dans ce monde, je vais donner un fonctionnement du marché qui est meilleur que le fonctionnement implicite à mon modèle antérieur. Moi, je ne suis pas informé. Voilà ce que je vais donner comme courbe de demande. Quand le prix est plus petit que ça, que cette valeur-là, quand il n'est pas trop élevé, bien, j'ai une demande basse. Et quand le prix est très élevé, et quand le prix devient relativement élevé, je passe à une demande haute. C'est-à-dire, je vais donner une courbe de demande qui fait l'hypothèse que si le prix est plus petit que telle valeur, je fais comme si c'était la mauvaise nouvelle qui était arrivée. Si le prix est plus élevé que l'autre valeur, je fais l'hypothèse que c'est que la bonne nouvelle est arrivée. Et puis, je donne ça au teneur de marché. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire la chose suivante. Si tous les non-informés donnent ça au teneur de marché, quand la mauvaise nouvelle arrivera, le prix sera bas. Et quand la bonne nouvelle arrivera, le prix sera haut. Et le prix sera bas, aussi bas qu'il n'aurait été si tout le monde avait été informé. Et le prix sera haut, aussi haut qu'il aurait été si tout le monde avait été informé. Donc, dans un cas tout à fait idéal, le marché bien compris par ses agents, transmet parfaitement l'information. Et donc, il le fait mieux que ce qu'il y avait implicitement dans le modèle. Comme le modèle, je ne l'ai pas vraiment développé, je le dis assez librement. Il le fait mieux d'une certaine manière. C'est un thème lié à ce qu'on appelle l'efficacité informationnelle du marché. Quand je parlerai beaucoup on va parler du marché boursier, évidemment. Le marché transmet bien l'information. C'est vraiment un leitmotiv. Et ce leitmotiv qui nous est venu de Chicago, etc., a eu une influence assez considérable sur les événements qu'il y a eu sur les marchés financiers jusqu'en 2008. Il a transmis un optimisme sur les vertus du marché, des marchés financiers, dont j'essaierai de vous montrer qu'il n'est pas fondé, mais qui est associé à des raisonnements de ce type. Bon, alors là, je poursuis le raisonnement. Bon, simplement, l'équilibre initial, tel que j'avais fait, c'est celui qui additionnait cette courbe avec les bonnes proportions et qui donnait un prix relativement haut quand c'était une bonne nouvelle, relativement bas quand c'était une basse nouvelle. La logique de l'équilibre informatique, celle que je viens d'expliquer, j'ai simplement mis les équations qui correspondent à ce que j'ai expliqué sur le graphique. C'est relativement clair. Alors, je ne vais pas poursuivre sur ce modèle, sauf pour dire que on peut en donner une autre version plus intéressante. La version que j'ai donnée, l'observation, on va le compliquer un petit peu et dire, en fait, l'observation de H et B, c'est une vraie observation. Par contre, le risque rémanent vient du fait que demain, il y a des gens, il y a des, qu'on dit en anglais, des noise traders, c'est pas des commerçants bruyants, mais c'est des intervenants aléatoires, qui achète ou qui vente, c'est une variable aléatoire. Donc le bruit vient non pas de la valeur intrinsèque que j'ai observée, mais du fait qu'il y a des gens qui l'achètent demain complètement aléatoirement. Alors à ce moment-là, l'histoire est à peu près la même, c'est-à-dire que si vous êtes informé sur une chose, vous avez une courbe de demande comme ça, le fait qu'elle soit comme ça tient au fait que vous avez du bruit quand même. Le fait que j'ai une courbe de demande qui n'est pas « je demande l'infini si le prix est plus petit que H », c'est vraiment lié au fait qu'il y a du bruit. Et si vous n'êtes pas informé, vous avez une courbe de demande comme ça. Si vous avez une mauvaise information, vous avez une courbe de demande comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que vont faire les agents qui ne sont pas informés ? Ils ne peuvent plus faire ce truc naïf, parce que ça ne marche plus, parce que le prix peut être n'importe quoi. Il n'y a pas deux prix, le bon prix et le mauvais prix. Le prix, ça peut être n'importe quoi parce qu'il y a du bruit. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, ils sont très malins, ils vont faire un équilibre bayésien et ils vont avoir une courbe, ils vont transmettre une courbe de demande de l'actif qui va être à peu près comme ça. Je suis désolé, elle n'est pas très bien dessinée. Hein. C'est-à-dire qu'au début, quand les prix sont bas, ils font comme si l'actif était de faible valeur. Et puis quand les prix augmentent, eh bien, ils augmentent, ils prennent des positions, ils augmentent leur demande de l'actif pour tenir compte du fait que quand le prix est élevé, statistiquement, ça vient du fait qu'il y a des gens qui, il y a des gens informés qui ont choisi. Hein. Et donc en fait leur équilibre, enfin, ce qu'ils vont transmettre au marché, c'est une courbe comme ça. Et la somme de ce qu'aura le marché, ça va être une courbe décroissante, hein, ce qu'on peut montrer dans le cadre de ce petit modèle. Je mentionne simplement ce petit modèle parce que, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir, mais c'est, si on le pousse un tout petit peu plus loin, si j'avais deux transparents de plus, je vous montrerai la seule explication que je connaisse du crash de 1987 sur la bourse new-yorkaise, hein, expliquée à partir de ce modèle. Mais je ne suis pas sûr que j'y crois, donc je vais... Autre cas de figure, le cas où l'information, ça ne marche pas, ou ça marche assez mal. Ce qui se passe avec nos sociétés et avec l'information marche mal parce qu'il y a des comportements moutonniers. C'est-à-dire les gens font comme les autres. Pour qu'il y ait des comportements... Alors, moutonniers, c'est... En anglais, on dit « herd behavior », de comportement de troupeau. Je préfère moutonnier, je trouve ça plus joli, plutôt que comportement de troupeau. Et donc, l'idée, c'est qu'on suit le courant, on suit la foule. C'est évidemment quelque chose qu'on évoque souvent à propos de tous les marchés financiers, etc. Alors, je vais vous donner un petit modèle dans lequel j'explique la base du comportement moutonnier. Son application au marché financier est beaucoup plus délicate. Ce n'est pas sûr que ce qu'on observe sur les marchés financiers soit facilement explicable par des comportements moutonniers. Alors, d'abord, ça, c'est premièrement ce qui se passe sur les comportements moutonniers. C'est pas, ça ne vient pas de la littérature économique. Hein. L'idée de l'imitation, elle est dans Tarde, qui fut professeur dans cette institution au siècle dernier, qui était, je ne sais pas, probablement on dirait sociologue aujourd'hui. Elle est dans Le Bon, hein, le comportement des foules, fin du siècle dernier, etc. Donc ce n'est pas de l'économie stricto sensu. Hein. C'est des choses liées au mouvement des foules, aux rumeurs, etc. Sauf qu'en économie, on a évoqué ça pour les paniques bancaires. Alors, est-ce qu'il y a une explication rationnelle? C'est un petit peu ce que, en fait, grosso modo, derrière les travaux de Tarde et Le Bon, il y a l'idée qu'au fond, il y a une certaine rationalité à ces mouvements de foule, etc. Alors, est-ce que ça peut être une interaction d'agents dotés de raison, de connaissances statistiques bonnes? Est-ce que c'est un problème de coordination, d'équilibre multiple, etc. Alors, je vais vous raconter une toute petite histoire qui a le mérite... Donc je prends un petit modèle. Oui, j'ai mis ici qu'un modèle, c'est un laboratoire. Parce que c'est quelque chose qu'on dit parfois. Hein. C'est une thèse d'un économiste de Chicago que je connais bien, qui s'appelle Robert Lucas. Hein, quand il défend la modélisation, il dit que les modèles, c'est comme des laboratoires. C'est des laboratoires qu'on n'a pas dans les sciences sociales. Donc, on fabrique des modèles dans lesquels on teste les idées en les faisant jouer sur des laboratoires. On pourrait en discuter. Hein, donc, j'évoquais simplement cette métaphore et cet argumentaire du laboratoire comme défense de la modélisation. Alors, on va prendre un cas où on a un choix binaire. Je dois prendre A ou B. Alors, A ou B, on va mettre ces deux restaurants hein, où vous allez dîner un jour. Ça va se passer instantanément, enfin, ça va se passer dans la soirée. Hein, vous ne faites pas des enquêtes sur les restaurants. Vous avez simplement une information individuelle qui va être médiocre. Et c'est-à-dire vous avez une partie de l'information sur laquelle les meilleurs restaurants, mais individuellement, ce que vous savez, c'est très peu par rapport à ce qu'il faudrait savoir. Vous avez eu un signal extrêmement peu informatif. Par contre, l'information, si je ressemble tous les signaux que vous avez reçus, j'ai une information parfaite. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est bon et l'autre pas bon. Et en matière de restaurant, évidemment, il faut faire l'hypothèse qu'il y a une échelle unique de valorisation du restaurant. Alors, on va prendre des décisions séquentielle. C'est-à-dire que ce que vous allez faire va dépendre de ce que vont faire les gens avant vous. Si vous voyez des gens aller au restaurant et que vous ne savez pas trop, ben vous allez peut-être les suivre. Et vous allez être très rationnel et vous allez faire de la bonne statistique. Vous allez faire des calculs de statisticien bayésien parfaitement convenables. Donc, il n'y a rien à dire. Mais vous allez observer les décisions précédentes des vôtres. Et ce qu'on va observer, c'est ce qu'on appelle des cascades informationnelles, c'est-à-dire une période de flottement, on va avoir une période de flottement, puis tout le monde va aller au même restaurant. Alors, je ne tiens pas compte du fait que s'il est encombré, il est peut-être moins bon, hein, c'est pas dans le modèle. Donc, on va voir qu'il va y avoir une incitation au début, et puis tout d'un coup, tout le monde va se mettre à aller au même restaurant. Et on va montrer que c'est des équilibres, et que c'est des équilibres fragiles. Et cerise sur le gâteau, je dirais que ça ressemble beaucoup aux équilibres de la transmission d'informations par les médias. Mais c'est plus risqué, mais je prendrai peut-être le risque. Voilà, donc la logique des choix. Donc il y a deux choix possibles. Grand R, R c'est le restaurant rouge. Grand V, c'est le restaurant vert. Alors, chacun d'entre nous reçoit un signal. Alors, avec probabilité 0,8, vous recevez comme signal petit R, c'est-à-dire un signal rouge, ou petit V. Donc un signal rouge, c'est un signal en faveur du restaurant rouge, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. En quel sens, je l'ai expliqué tout à l'heure. Ou avec probabilité 0,2, vous ne recevez rien. Je mets noir, vous ne voyez rien. Ni vert, ni rouge, vous ne voyez rien. Alors maintenant, quelle est la valeur de ces signaux? Eh bien, si R est meilleur que V, c'est-à-dire que le restaurant rouge est meilleur que le restaurant vert, alors avec probabilité 2 tiers, on reçoit le signal rouge. Donc si R est meilleur que V, 2/3 d'entre vous vont recevoir... Non, pardon. 20% d'entre vous vont rien recevoir, 80% vont recevoir un signal. Parmi ces 80% qui reçoivent un signal, les 2/3 vont se recevoir un signal rouge et 1/3 un signal vert. Si vert est meilleur, ce sera le contraire. Vous avez 2/3 à recevoir un signal vert, 1/3 à recevoir un signal rouge. Donc, c'est ça que je disais tout à l'heure. Votre information personnelle est médiocre, puisque vous recevez un signal avec une certaine probabilité. Mais l'information sociale, dès qu'il y a beaucoup de gens, elle est parfaite. C'est-à-dire que si vous savez qu'il y a à peu près 2/3 des gens qui ont reçu le signal rouge, ça veut dire que rouge est meilleur, etc. etc. Si vous savez qu'il y a 2/3 qui ont reçu le signal vert, vous savez que vert est meilleur. Et ça, c'est la... Donc l'information sociale est parfaite. L'information personnelle est assez médiocre. Alors, pourquoi il va y avoir des problèmes? Parce qu'on va décider séquentiellement. D'abord, monsieur 1 va décider, puis monsieur 2 va décider, puis monsieur 3 va décider. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va fabriquer toute une série d'histoires sur ça. Alors, au début des temps, monsieur 1 observe petit R. Vous êtes monsieur 1, vous observez petit R, vous devez aller à quel restaurant? Vous êtes rationnel, vous allez aller au restaurant grand R. Puisque c'est le seul signal que vous avez reçu, c'est rationnel d'aller à grand R. Vous devez décider, hein, il s'agit pas, vous ne devez pas attendre, etc. Ça ne suffit pas les choses. Alors, maintenant... Maintenant, monsieur 2 observe, c'est à monsieur 2 de choisir. Alors, soit il observait petit R, ben, naturellement, il va aller aussi à grand R. Il a vu monsieur 1 aller à grand R. Monsieur 1 est allé à grand R, non pas parce qu'il a reçu un, soit il a choisi aléatoirement, soit il a reçu un signal rouge. En tout cas, il y a une certaine probabilité qu'il ait reçu un signal rouge. Moi, j'ai reçu un signal rouge. Il est évident que je n'ai pas hésité. Hein, compte tenu de l'information donnée par l'action de l'autre et de ma propre information, je dois aller à grand R. Si je ne reçois rien, c'est-à-dire j'ai reçu noir, ben, je vais quand même aller à grand R. Hein, parce que le précédent, il a pu, avec probabilité 20%, recevoir noir, mais avec 80%, il a reçu quelque chose. Et s'il a reçu quelque chose, c'est rouge. Donc, l'information totale, que quand je fais ça, c'est que rouge n'est peut-être pas apparu, mais il y a une probabilité que rouge soit apparu, rouge est dominant. Donc, s'il observe rien, il va rouge aussi. Maintenant, petit V. Maintenant, s'il observe vert, vous êtes le deuxième. Le premier a pris rouge, vous observez vert. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez à vert, oui, parce que vous êtes sûr que vous avez observé vert. Lui, vous ne savez pas s'il observe... Si vous étiez sûr qu'il a observé rouge, vous seriez complètement indécis, mais il n'a peut-être rien observé. Donc, l'information que vous avez en observant vert est supérieure à l'information que vous imaginez qu'il a pu avoir. Voilà. Alors maintenant, ça va aller assez vite. Hein. La suite. Si je suis dans la situation en italique, c'est-à-dire premièrement, alors je fais l'hypothèse que 1 observait rouge, on pourrait en faire l'histoire en disant qu'il observe vert, mais ça ne change pas grand-chose, hein, et que soit le second observe petit R, il va à rouge, soit petit noir, il va à rouge, hein, ben je dis dans les situations italiques qui sont ces deux-là, hein, 3, puis tous les suivants iront à grand R. Pourquoi ? Parce que les deux premiers sont allés à grand R. Même si vous recevez V et que vous êtes 3, la valeur de l'information que vous avez est en moyenne inférieure à l'information que vous avez révélée par ces choix. Même si vous savez, vous êtes conscient que peut-être qu'ils n'ont rien vu, ni l'un ni l'autre. Hein. Peut-être qu'ils ont vu noir tous les deux, mais c'est relativement peu probable. L'information moyenne qui est transmise par leur choix est supérieure à l'information que vous avez en recevant vert. Donc ça, c'est si on est dans ce cas-là, eh bien, il y a le début de la cascade informationnelle. Après, tout le monde va aller à rouge, quoi qu'il arrive. Les choix des deux premiers ont fait que tout le monde va aller au restaurant rouge, qui va être un peu trop rempli par ailleurs et qui se sent moins agréable. Voilà. Alors maintenant, si je suis en non italique, V va à vert. Alors donc 3. Alors maintenant, qu'est-ce que va faire 3 ? Le premier est allé à rouge, le deuxième est allé à vert, donc, et vous êtes 3. Eh bien, vous suivez votre signal. Pourquoi ? Parce que vous avez la... il faut à chaque fois se convaincre, mais vous faites la somme de toutes les informations que vous avez. Le premier a peut-être eu noir, peut-être rouge. Le deuxième a sûrement eu vert. Et vous, si vous avez vert, ben vous allez comme lui, parce que c'est vert qui domine. Si vous avez rouge, c'est encore rouge qui domine, parce que vous avez un rouge avec une certaine probabilité plus noir contre deux verts. Donc vous allez... 3 suit son signal. Donc si c'est R, attendez, on était là, hein, si c'est R, ben à ce moment-là, on est à nouveau dans le cas de la cascade. C'est-à-dire qu'il y en a 2 qui sont allés à R, 1 est allé à vert, hein, et le quatrième va nécessairement aller à R. Par contre, si lui choisit V, s'il observe V, il va aller à V, s'il observe rien, il va aller à V aussi. Vous convaincrez que c'est juste en faisant un tour comme ça. Donc, il y aura une cascade V la période suivante. Quoi qu'il arrive, c'est qu'au bout d'un certain nombre de périodes, il y a cascade. C'est-à-dire tous les gens se mettent à faire comme les précédents. Alors, la cascade rouge, si rouge est vrai, c'est-à-dire si le restaurant rouge est meilleur, est plus probable que la cascade verte, et vice-versa, si vert est vrai. Mais elle a une probabilité, que je vous laisse le soin de calculer, qui est relativement importante. Donc, quelles sont les caractéristiques de cet équilibre ? Il y a des cascades informationnelles, c'est-à-dire tout le monde fait comme le voisin. Il y a une tendance à ce que tout le monde fasse comme le voisin. Alors, ces gens... Alors, naturellement, l'équilibre dépend du détail de l'histoire, qui choisit le premier, hein, de l'aléa, de l'information détenue par le premier. L'équilibre peut être efficace. Il y a des chances qu'en R, elle est meilleure que R se produise. Il y a un peu moins de chances que V se produise, mais il peut aussi être souvent inefficace. C'est les probabilités dont je parlais tout à l'heure. Les agents sont rationnels et ils sont sophistiqués statistiquement. Ils utilisent toute leur information, sachant ils utilisent non seulement toute leur information, mais toute leur compréhension de la manière dont les autres utilisent l'information. Et ce qu'on voit, c'est que les actions cessent très rapidement de transmettre de l'information socialement utile. Deuxièmement, ça c'est le premier point. Donc l'équilibre, il y a plusieurs possibilités. Mais ça se termine par une cascade informationnelle, et assez vite en principe. Maintenant, l'équilibre est fragile. C'est-à-dire que dans ce monde, tous les gens comprennent que le fait qu'ils aient fait ça n'est pas fondé sur une grande information. Que le fait qu'ils aient fait ça, c'est ce qu'ils peuvent faire de mieux, de plus intelligent, compte tenu de ce qui se passe. Mais ils sont conscients du fait qu'à partir du troisième, ils ont fait comme les précédents. Et que donc, il n'y a pas énormément d'informations. Donc si jamais... arrive quelqu'un dont on sait qu'il est très informé, il a des connaissances communes qu'il est très informé et qui vous dit V est meilleur, tous vont changer et aller à V. S'il y avait quelqu'un qui donc la foule est rationnelle, mais rationnellement influençable et versatile, puisqu'elle est consciente de la fragilité de son mouvement. Voilà, donc c'est une histoire qui est plutôt... Alors, qu'est-ce qu'il y a implication pour les marchés financiers, il n'y a aucune histoire sur les marchés financiers qui soit strictement convaincante en matière de comportement moutonnier. Je pourrais vous présenter un modèle un peu compliqué qui a été fait il y a quelques années, mais je ne trouve pas qu'il donne des résultats totalement convaincants, parce que il est évident que les gens, il y a des comportements moutonniers dans le marché financier, les premiers, deuxièmes, etc., mais il y a aussi beaucoup de simultanéité dans ce qui se passe, qui nous ramène plutôt au premier modèle plutôt qu'au second. Enfin, je ne sais pas. Alors, la logique de l'information, alors je dis, oui, ça, très rapidement, juste une parenthèse ce qui mériterait sur lequel j'en dis trop ou trop peu, mais souvent, il y a, dans les médias, qu'est-ce qui se passe? Il y a un événement, c'est A ou B, hein, qui est flou, et il y a le premier qui va le voir, un ou deux, et puis, par exemple, les deux premiers vont le voir, et ils disent que c'est A. Et ça va déterminer un comportement moutonnier, une cascade, c'est-à-dire que les autres ayant peu d'informations, ayant pas le temps de l'acquérir très rapidement, vont suivre les premiers qui éventuellement sont allés ou se trouvaient sur le terrain, qui avaient un peu plus, éventuellement, je ne suis pas exactement dans mon modèle, hein, c'est peut-être pas l'équilibre, et peut-être pas aussi symétrique dans mon modèle. A devient donc l'information universelle. Là où mon argumentaire est plus discutable, c'est que je pense que dans le monde médiatique dans lequel on vit, hein, l'information, l'incitation à vérifier une fois qu'une information est passée, est assez faible. Parce que deux choses. Une, soit la vérification vous conduit à confirmer que c'était bien A. Alors là, vous n'aurez pas. Personne ne vous en sera particulièrement reconnaissant. Soit elle conduit à infirmer grand A. Alors, comme tout le monde a affirmé que grand A existait, il y a quand même une réticence collective à se dédire. Il y a un problème de réputation collective de l'institution qui est en cause. Donc voilà. Alors maintenant, les rumeurs aussi, il y a probablement des mécanismes assez voisins, mais ça dépasse un petit peu le cadre de ce que je voulais dire maintenant. Voilà. Alors on revient. Je reviens à une diapositive que j'avais déjà présentée, en disant que je vais quitter le monde de référence dont j'ai dit les mérites et les limites, hein, donc en regardant l'incomplétude et l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Mais je n'aurais pas dû mettre cette... Ça, c'est une introduction à ce que je vais dire sur le marché boursier la fois prochaine. Donc ça aurait dû être après les transparents que je vais vous présenter maintenant. Donc vous la faites glisser dans votre mémoire un peu plus loin, c'est ça. Alors, mener et coordination des anticipations. Là, ce que je vais refaire, c'est à la fois très simple et un peu une gageure, mais je vais essayer de vous montrer que dans un monde pas beaucoup plus compliqué que le plus simple que je vous ai expliqué au départ, on peut retrouver la règle de Taylor et comprendre ce qui est fait le fond de la logique de la règle de Taylor. Ce qui, enfin, à mon sens, c'est la nature profonde de la règle de Taylor. On peut évidemment être en désaccord. Et pour ça... Je vais partir de quelque chose qui est relativement loin, mais que j'aime bien. C'est un texte qui est paru dans le Financial Times le 3 mars 2009 et qui était signé par M. Buiter, qui est un économiste, je crois qu'il est anglais, mais je ne suis pas absolument sûr. En tout cas, il a été longtemps à Londres et qui a mis sur le site du Financial Times un pamphlet que je trouve absolument rafraîchissant, donc sur lequel on va partir. Je vais vous montrer qu'il y a une petite relation avec ce que je vais vous raconter. Ce n'est qu'un début, j'y reviendrai sur ce pamphlet. Mais dans les marchés financiers, sur les marchés d'actifs, qu'ils soient réels ou financiers en général, le prix des actifs aujourd'hui dépend de la vue qu'a le marché, du comportement futur des prix. Le prix aujourd'hui dépend du prix demain. C'est ce qu'il y a dans l'équilibre de prix de plan d'anticipation de prix. Ce que vous faites sur le marché aujourd'hui dépend des prix demain, évidemment, naturellement. Donc les prix des actifs aujourd'hui dépendent des anticipations du prix de demain. Et de même, le prix de demain dépend des anticipations de demain sur le prix d'après-demain, etc., ad nauseum. Ça, il prouve qu'il a une idée derrière la tête. Ça ne doit pas être très gentil pour ses collègues. Hein. Et comme il dit, comme il n'y a pas de date terminale évidente pour l'univers, il n'y a peu de macro... Je suis pas sûr que ce soit très bon, mais peu de macroéconomistes étudient la cosmologie dans leur temps, pendant leur loisir. La plupart des modèles économiques avec une tarification rationnelle des actifs sont tels que le prix d'aujourd'hui dépend en partie de l'anticipation aujourd'hui du prix jusqu'à un avenir infiniment éloigné. Dans un modèle à horizon infini, fût-il de la classe de ceux que j'ai abordés, il y a effectivement des conditions terminales. Le monde aujourd'hui dépend éventuellement du monde de la fin des temps. Enfin, on va essayer de voir ça, si, jusqu'à quel point c'est vrai, dans le modèle très simple qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la... Je termine ce plan fait, du comportement terminal des anticipations sur les prix d'actifs. Les techniques de l'optimisation mathématique implique que l'influence du temps, du futur très lointain sur le critère de programmation soit zéro, ce qui est une condition de transversalité, c'est-à-dire qu'on met quelque chose dans l'infini qui vient bloquer le système, c'est une condition de transversalité, et ça sépare de la condition pour un optimum. Alors un petit miracle se produit. Mais dans un marché économie décentralisée, il n'y a pas de programmateur mathématique qui impose les conditions terminales aux bornes pour être sûr que tout sera convenable. Donc, messieurs, prenez note. Alors, cette objection, c'est une objection qui se rapporte à quelle version de mon discours ? Bien, à la version de la coordination des anticipations. J'ai dit qu'il fallait qu'on revienne sur la coordination des anticipations. Et donc, je vais revenir sur ce problème de coordination des anticipations. Tout ça, je vais prendre le modèle à horizon infini le plus simple que je peux. Et on va un petit peu jouer avec l'idée de Buiter, en disant ben, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il n'a pas raison, peut-être qu'au fond, c'est un sujet sur lequel on a déjà réfléchi. J'y reviendrai. Donc, pour ça, je reviens à mon monde. Le monde que je vais avoir, c'est un monde dans lequel il y a un bien, comme le monde à trois périodes de tout à l'heure, que j'avais expliqué. Mais, à la différence du monde de trois périodes de tout à l'heure, il avait un horizon fini. Il y avait une fin des temps. Et pour cette fin à la fin des temps, il y avait un prix, et il y avait l'objection de Buiter ne joue absolument pas. Ce qui se passait en dernière période, c'est l'équilibre de dernière période, il n'y avait absolument pas de cas. Là, il n'y aura pas de fin des temps, c'est-à-dire que le temps va durer tout le temps. On va aller de zéro à l'infini. Et on va être dans le même monde que tout à l'heure, sauf qu'on va voir la monnaie numéraire, c'est-à-dire que le prix du bien disponible à chaque période, en termes de monnaie, va être éventuellement variable. Il y aura un taux d'inflation. Alors, j'arrive à ça. Et on va regarder ce que fait la Banque centrale. Et je vais vous dire, ce que fait la Banque centrale, c'est un essai pour répondre... Ce que fait la Banque centrale de la règle de Taylor, c'est un essai pour répondre à l'objection de Buiter. Ça consiste à dire il y a peut-être beaucoup... La manière dont on fixe les anticipations est liée à un raisonnement que l'on fait qui a un certain sens. Ce n'est pas simplement quelque chose d'arbitraire fait par mon programmateur de mathématicien de ce modèle. Alors, donc, le modèle, je vous le... Donc, on a un continu d'agents, toujours j'en mets beaucoup, ils sont tous identiques, donc ce n'est pas très comparable. Chacun reçoit une quantité petit b de biens à chaque période. Donc chaque période tombe du ciel une quantité petit b de biens. Alors, comme on y aura de la monnaie, le prix monétaire du bien, c'est p de t. Il est exprimé en termes de monnaie, c'est p de t. Alors maintenant, les agents, on va leur donner une fonction d'utilité. Alors là, j'ai mis isoélastique, en fait, ça n'a pas d'importance, c'est pas très lié au raisonnement. Qu'est-ce que c'est une fonction d'utilité isoélastique ? C'est une fonction de cette forme-là. Hein. Sur 1 moins sigma, c'était la puissance 1 moins sigma. Si vous faites sigma égale 1, c'est le log. C'est une fonction d'utilité sur laquelle on pourrait discuter, dans laquelle, selon la valeur de sigma, vous avez la version au risque est liée à la valeur de sigma que vous avez. Vous êtes où là ? Le fait que vous désiriez des consommations plus ou moins égales est lié à la courbure de cette fonction d'utilité, donc à la valeur de sigma. Et par ailleurs, ils ont un taux de préférence pur pour le présent bêta, c'est-à-dire que l'utilité de la période t est multipliée par bêta puissance t. Donc l'utilité en période 1, c'est U de C1. En période 2, c'est plus bêta U de C2. En période 0, c'est U de C0. En période 1, plus bêta U de C1. En période 2, plus bêta 2 U de C2. C'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, une unité de consommation autour du même niveau de consommation vous apporte moins si vous êtes loin dans le futur. Il y a un taux de préférence pure pour le présent. C'est une hypothèse faite très souvent dans les modèles économiques. Bon, ce modèle est très simple. Pourquoi ? Parce que il ne peut pas se passer grand-chose. C'est comme tout à l'heure dans mon modèle où les gens... Tout à l'heure, mon modèle, au moins, ils pouvaient échanger. Ils n'avaient pas tous les mêmes quantités de dotation initiale à chaque période. Ici, ils ne pourront pas faire ça. Donc, vous voyez bien que le seul équilibre possible, ça va être qu'il ne se passe rien. Chacun consomme la quantité petit b qu'il reçoit. Alors, effectivement, est-ce que ça, je peux l'obtenir comme un équilibre de prix de plan en anticipation de prix ? Ben oui, ou un équilibre d'Arrow de Breux. Il faut que je trouve un taux d'intérêt. Donc, je vais trouver un système de prix, un taux d'intérêt, de telle sorte que ce qui se passe est l'équilibre. Ben, si le taux d'intérêt est 1 plus R de T, et que je retire une unité de consommation à la période T, ça me coûte U' de CT. L'utilité marginale de la consommation, si j'enlève une unité de consommation à la période T. Qu'est-ce que ça me rapporte ? Bien, comme le taux d'intérêt est 1 plus RT, ça me donne 1 plus RT, unité de bien de main. Quelle est la valeur de 1 plus RT, unité de bien de main ? Bien, c'est bêta U' de CT plus 1. U' de CT plus 1, puisque j'ajoute un demain, bêta parce que c'est demain et c'est moins bien qu'aujourd'hui. Donc, maintenant, est-ce que je vais trouver des taux d'intérêt qui assurent l'équilibre ? Ben oui, il me suffit, puisqu'à l'équilibre, la seule chose qui peut se passer, c'est que C étoile de T égale C étoile de T plus 1 égale B. À nouveau, à l'équilibre, parce qu'il y a coordination des anticipations, parce que je suis dans l'équilibre d'Arrow de Breux, etc. Est-ce qu'il y en a un ? Oui. Et comment je le tropiens ? Ben, en annonçant le taux d'intérêt R étoile, tel que 1 plus R étoile égale 1 sur bêta. Donc il y a un taux d'intérêt tel que si je l'annonce et si je fais une suite de marché au cours des temps, etc., il ne va rien se passer, mais les gens ne vont pas désirer échanger, ne vont pas désirer échanger des biens entre les périodes. Alors on peut me dire, le monde est extraordinairement simple, mais je pourrais le compliquer autant que je veux en gardant à peu près avec la même nature de message. C'est-à-dire il y a des taux d'intérêt qui assurent des équilibres. Alors, par exemple, si vous voulez bêta égale 0,98, vous avez 2% de préférence pour le présent, c'est l'année. Hein, ça veut dire que R étoile serait égal à 2%. Sur bêta, c'est 1 sur 0,98, ça ferait 1 plus R étoile, ça ferait 2% de taux d'intérêt. On peut le calibrer pour que ça ressemble un petit peu au monde réel. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si il y a de la monnaie ? Le prix, il va avoir un bien en monnaie cette fois. Maintenant, le taux d'intérêt, ça va être un taux d'intérêt nominal. C'est-à-dire que quand il y a de la monnaie, je fais un emprunt en donnant une unité de monnaie, et je reçois un certain nombre d'unités de monnaie demain. Le nombre d'unités de monnaie demain que je reçois, si le taux d'intérêt nominal est IT, c'est 1 plus IT. Donc l'emprunt est en monnaie, le remboursement est en monnaie. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce modèle, il y a autant d'équilibre qu'on veut. Il suffit, si je mets un taux d'inflation constant, par exemple, eh bien, je mets un taux d'intérêt qui est égal au taux d'intérêt réel qui est ici, plus le taux d'inflation. À nouveau, c'est un équilibre, puisque chaque agent confronté avec ça a exactement les mêmes choix que tout à l'heure. Mais on va quand même regarder un petit peu plus près les conditions de les conditions du choix de l'agent. Alors, si je ne me suis pas trompé, si je dépense une unité de monnaie, si j'épargne une unité de monnaie aujourd'hui, qu'est-ce que je perds ? Eh bien, en quantité de bien, c'est 1 sur P de T, hein, puisque le prix du bien, c'est P de T en unité de monnaie. Donc je perds 1 sur P de T en quantité de bien. En quantité de bien, l'unité de quantité de bien a une utilité U' de C de T, quand je suis autour de C de T. Donc voilà, ça, c'est ce que je perds. Maintenant, si j'investis, donc si je fais cet effort d'épargne, qu'est-ce que je vais gagner ? Ben, j'aurai 1 plus IT en nominal. Mais ce qui veut dire, en quantité de bien, ça me fera 1 plus IT divisé par PT plus 1, qui est le prix du bien demain en monnaie. Et puis, quel est l'intérêt que ça a pour moi ? Eh bien, s'il y a U' de CT plus 1 multiplié par bêta. Bêta parce que c'est demain, U' de CT plus 1 parce que c'est l'utilité demain. Et donc, en fait, la formule, Si je regarde ceci, hein, j'ai simplement réécrit dans le Nouveau Monde, c'est un petit peu, il faut s'accrocher un peu, hein, mais grosso modo, ce que j'ai comme condition, c'est 1 plus i de t, le taux d'intérêt nominal, 1 plus, il faudrait mettre la parenthèse sur les deux, divisé par pi de t plus 1 égale 1 sur bêta. Dès lors que ceci est vrai, hein, 1 plus le taux d'intérêt nominal divisé par le taux d'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est le taux d'intérêt réel. Et c'est égal à 1 sur bêta, c'est le même taux d'intérêt réel que dans le monde sans monnaie. Et ça assure le même équilibre. Donc, dans ce monde, si je annonce une série de... Hein, s'il y a une suite de pi de t, de taux d'inflation et de taux d'intérêt nominaux qui vérifient ceci, eh bien, ils définissent un équilibre exactement comme le précédent. Donc, j'ai une infinité d'équilibre. Dans ce monde très simple, j'ai une infinité d'équilibre. Je suis donc soumis à l'objection de Buiter, puisque j'ai une infinité d'équilibre. Alors, vous allez me dire, tous ces équilibres, ils sont quand même tous pareils. Hein. Ils sont pas pareils en valeur nominale, ils sont tous pareils en termes réels. Alors, où vient la... Bon, là, je répète un petit peu ce que je viens de dire. Hein. Donc, dans tous ces équilibres, hein, l'équilibre réel, c'était qu'il y avait un taux d'intérêt qui était 1 sur bêta, 1 plus R étoile, hein, et qu'il n'y avait pas d'échange. L'équilibre monétaire, c'est tout de suite... Je me répète, it pi de t tel que 1 sur it plus pi t plus 1 égale 1 sur bêta. Et ça, il y a autant d'équilibre monétaire qu'il y a de suite vérifiant ceci, et je peux en construire donc autant que je veux, si ce n'est pas spécialement difficile. Alors maintenant, ça fait quand même beaucoup d'équilibre, donc on va essayer d'être raisonnable, on va se fixer un taux d'inflation cible. Pi star égale p étoile de t sur p étoile de t moins 1, on est plus grand que bêta pour des raisons... que l'algèbre nous confirmerait, mais... Alors maintenant, on va introduire la banque centrale là-dedans. Hein, on va dire la banque centrale, elle va essayer de faire... bon, c'est raisonnable d'avoir un taux d'inflation cible pi étoile. Quelle valeur il devrait prendre pour ici on n'a pas de raison très, très forte d'avoir des opinions sur les bonnes valeurs de pi étoile. Mais il va falloir que si la banque centrale... Donc, là, ce que va faire la banque centrale dans ce monde, elle va fixer le taux d'intérêt nominal. Pourquoi pas? Mais naturellement, il va falloir qu'elle dise un peu plus. Naturellement, elle pourrait dire, je vais toujours fixer I étoile. Ce ne sera pas une bonne règle, mais on va essayer d'étendre cette règle en disant, elle va dire ce qu'elle va faire... quand le taux d'inflation sera pi étoile. Mais si le taux d'inflation n'est pas pi étoile, elle va nous dire aussi à combien elle va fixer le taux d'intérêt nominal. Et donc, ça, je vais dire, elle va utiliser une règle qu'on va appeler vixélienne. C'est-à-dire que la banque centrale, on va lui donner comme règle, hein, elle va adopter une règle, on va essayer de la choisir, on va essayer de la choisir pour que les choses se passent bien, pour éviter l'objection de Buiter jusqu'à un certain point. Cette règle, elle va nous dire que le taux d'intérêt nominal était une certaine fonction du taux d'inflation, donc le taux d'intérêt nominal de la période T, auquel dans la logique de tout à l'heure, dépend de l'inflation de la période T. Donc le taux d'intérêt nominal de la période T, il détermine le rendement de l'actif à la période T plus 1, mais il dépend du taux d'inflation de la période entre T moins 1 et T. Et l'idée, c'est que phi va être croissant, on pourrait discuter. Alors, naturellement, une première chose, alors ce phi et ce phi sont les mêmes, hein, c'est simplement une erreur. Une première chose qui doit être, puisqu'on vise pi étoile comme taux d'inflation, il faut que le phi vérifie que si le taux d'inflation est pi étoile, hein, la relation qui est ici soit vérifiée. Hein, donc, si je mets ici... 1 plus phi de pi étoile au lieu de 1 plus it, je divise par pi étoile, je dois trouver 1 sur bêta. C'est-à-dire que je veux avoir 1 plus phi de pi étoile égale pi étoile plus bêta. Ça veut simplement dire que quand le taux d'inflation est pi étoile, que je l'ai constaté, je mets un taux d'intérêt nominal tel que si l'inflation demain est pi étoile, le taux d'intérêt réel sera pi étoile. Je suis simplement en accord avec... Je suis dans la logique de... j'exprime simplement le sens qu'il y a à avoir une inflation cible. L'inflation cible, elle est définie comme ça. Quel problème de la politique monétaire? Ben, c'est qu'est-ce qu'un bon phi? Est-ce qu'il y a des phi qui sont meilleurs que d'autres? À nouveau, dans un monde très simple, vous allez me dire que tout ça n'a pas beaucoup d'importance. S'il y en a, Alors, malgré tout, on a le problème de Buiter, parce que des équilibres, il y en a autant qu'on veut. Alors, vous allez dire, en tant qu'équilibre, il donne le même équilibre réel. Enfin, ce sont des équilibres qui donnent les mêmes allocations réelles. Mais la question, il donne la même allocation réelle dès lors que les anticipations sont coordonnées. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est que parmi ces équilibres, est-ce qu'il y en a un qui, compte tenu de l'action prise par la politique monétaire, aura des anticipations mieux coordonnées ? L'objet de la politique monétaire ici, ça va être de rendre crédible la coordination des anticipations sur cet équilibre-là. Alors pour ce faire, on va essayer, on va ramer, mais on devrait y arriver. Alors ce que dit Buiter, c'est que ce qu'il suggère en tout cas, c'est que dans ces modèles, à horizon infini, il y a beaucoup d'équilibres. Comme j'ai dit ici, il y en a beaucoup. À nouveau, il y en a beaucoup. Alors quand il y en a beaucoup, comment on fait pour les choisir ? Dans la littérature, il y a une idée qui a émergé, je pourrais revenir dessus si vous voulez, etc., c'est qu'un bon équilibre est un équilibre qui est localement isolé, c'est-à-dire qui est déterminé dans le vocabulaire de la théorie standard. Ça veut dire qu'il est déterminé parce que vous avez un équilibre qui est stationnaire, par exemple pi étoile, hein, vous pensez qu'il y a plus de chances qu'il soit le bon équilibre, celui auquel pensent les agents lorsqu'ils réfléchissent sur le système, s'il n'y a pas d'autre équilibre, il y a d'autres équilibres que lui, hein, parce qu'on est dans des mondes où il y en a beaucoup. Mais s'il n'y en a pas, qui sont très proches, si les autres, ils s'éloignent, parce que les gens, s'ils s'éloignent, si les gens ont une idée que ça ne devrait pas trop s'éloigner, ça les tue. En quelque sorte, donc il ne faut pas qu'il y ait d'équilibre voisin de l'équilibre que l'on prend, de l'équilibre de référence, hein, et qui s'en rapprocherait. Parce qu'à ce moment-là, ce sont des équilibres voisins. Il n'y a pas de raison de penser que les agents peuvent comprendre ce qui se passe entre ces équilibres voisins. Par contre, si les autres équilibres s'éloignent de l'équilibre stationnaire, alors on a des raisons de penser qu'il est plausible. Alors, on pourrait argumenter un peu plus, je ne prétends pas le faire, j'y reviendrai. C'est un sujet sur lequel je pourrais vous parler pendant des heures et des heures, mais c'est ça le critère. On va donc choisir la règle pour que l'équilibre pi étoile, c'est un équilibre. Si tout le monde y croit, il se produit. La banque, elle agit de cette manière-là. On va essayer de regarder si ça implique que les autres équilibres qui existent toujours ne sont pas proches de l'équilibre dans lequel on est. Ben, c'est assez facile à faire. Hein. On prend les équations. Les équations de l'équilibre, c'est ça. Bêta 1 plus i de t. Alors, on les a écrites de toutes les façons. Hein. C'était tout à l'heure 1 plus i de t divisé par pi de t plus 1 égale 1 sur bêta, mais c'est exactement la même chose que bêta 1 plus phi de pi de t égale pi de t plus 1. C'est-à-dire j'ai remplacé i de t par phi de pi de t, simplement, c'est ça, dans les équations précédentes. C'est exactement la même que tout à l'heure. Alors maintenant, s'il y a un équilibre qui est proche, comment on va regarder ici ? Est-ce qu'il y a des équilibres proches ? C'est-à-dire là, on est en pi étoile, ça c'est vérifié en pi étoile. Pour pi de t égale pi étoile, quel que soit t, c'est vérifié. Maintenant, je vais faire un petit écart, je vais faire delta de pi de t. Qu'est-ce qui est compatible ? Quelles sont les valeurs de delta de pi de t et delta de pi de t plus 1 qui sont compatibles avec le fait qu'on est encore à l'équilibre ? C'est-à-dire que le taux d'intérêt réel est toujours égal à R étoile. Eh bien, on dérive ceci, hein, c'est simplement phi prime multiplié par bêta delta de pi de t, hein, c'est simplement la dérivation de bêta phi de pi de t, égale, alors quand je mets delta, ça devrait être égal delta de pi de t plus 1. Delta de pi de t plus 1, c'est une petite variation de pi de t plus 1. Alors maintenant, cette équation, ce qu'elle vous dit, c'est que delta de pi de t plus 1, si phi prime bêta est plus grand que 1, vous voyez bien que delta de pi de t plus 1 est plus grand que delta de pi de t. C'est-à-dire que l'équilibre voisin de mon équilibre s'en éloigne si phi prime bêta est plus grand que 1. Donc, le critère du bon équilibre, de celui qui va permettre la meilleure coordination des anticipations, c'est que phi prime multiplié par bêta soit plus grand que 1, ou phi prime soit plus grand que 1 sur bêta. C'est-à-dire que la banque centrale réagisse à de l'inflation, à un surcroît d'inflation, en exacerbant le taux d'intérêt nominal. Pourquoi ? Parce que ce faisant, les agents pourraient se convaincre que c'est un nouvel équilibre uniquement en accroissant le taux d'inflation, en ayant des anticipations de l'inflation la fois suivante qui soient encore accrues. et tout ceci n'est pas stable en un certain sens. Donc, c'est une réponse arbitraire, hein, c'est une réponse dans le cadre de ce modèle, c'est une réponse sur laquelle vous pouvez ne pas, sur laquelle vous pouvez avoir des doutes, mais il faut bien comprendre que, à ma connaissance, dans l'état actuel de ma compréhension, c'est ce qu'il y a vraiment de fondamental derrière la règle de Taylor, qui est utilisée par toutes nos banques centrales pendant un certain nombre d'années, et qui manifestait, comme je l'ai dit la dernière fois, la grande réconciliation entre les universitaires d'un côté et les praticiens de l'autre côté. Jusque-là, ça avait été plutôt à couteau tiré, enfin, sauf si on remonte à Ricardo, à très loin. Il y avait d'un côté les universitaires qui voulaient contrôler la quantité de monnaie et les praticiens qui voulaient contrôler les taux d'intérêt. Et on avait trouvé enfin une règle qui réconciliait tout le monde. Alors, je prétends maintenant, je suis prêt en débat avec qui serait en désaccord, que c'est ça qu'il y a au fond derrière la règle de Taylor. Notamment la règle de Taylor, je peux l'établir dans des modèles quand même plus compliqués que ça. Hein. Si je l'ai compliqué, il faut que je mette, il y a beaucoup de manières. Je pourrais faire un modèle nouveau keynésien où je mettrais que les entreprises fixent augmentent leur prix de façon, lorsqu'elles sont autorisées à le faire, de façon aléatoire. Donc il y a un taux d'inflation qui est lié à l'idée qu'elles se font du taux d'inflation, etc. Je pourrais mettre des fluctuations d'activité économique. À certains moments, on est plus près de la pleine capacité de l'économie. Hein. Je suis extrêmement, extrêmement vague. Et les règles de Taylor réelles ont fait deux arguments. Hein. Un premier qui est de ce type-là, c'est-à-dire le taux d'intérêt nominal doit réagir au surcroît d'inflation de façon conforme à ce que je viens de dire ici. Et puis il y a aussi un autre terme qui tient compte du fait qu'on a tendance à être plutôt en récession ou en expansion, hein, et donc la politique monétaire en tient aussi compte. Donc je pourrais compliquer l'affaire. Maintenant, la logique de ça, c'est, je crois, que une des logiques intellectuelles de la règle de Taylor est celle que je viens d'expliquer. Alors, est-ce que c'est... Bon, ben là, je répète un tout petit peu ce que j'ai dit. Je vais pas... Donc on a un monde... On a regardé un monde qui était sans besoin de liquidité, mais avec monnaie. Donc la monnaie était une unité de compte, mais il y avait une difficulté d'identification de la valeur future de la monnaie qui est due aux anticipations. Donc un continu d'équilibre avec des taux d'inflation, avec des séquences de taux d'inflation qui sont autoréalisatrices, c'est-à-dire si elles sont crues, elles les déterminent. Et donc la Banque centrale, en fixant le taux d'intérêt nominal, en adoptant une règle, on l'appelle règle vixélienne parce qu'il y a derrière l'idée qu'il y a un taux d'intérêt réel derrière qui est le bon taux pour l'économie. Hein. Ça, évidemment, le peu que j'en ai dit ne constitue pas une discussion approfondie de la règle de Taylor, mais simplement une introduction. Donc elle va jouer un rôle essentiel dans le processus de coordination, en faisant que la coordination des anticipations sur des chemins inflationnistes deviennent peu plausibles au regard des raisonnements que j'ai produits ici. Alors, c'est au cœur des politiques des banques centrales, je l'ai dit, le cœur de l'argumentaire est là, ça c'est mon point de vue. Je l'ai dit ça aussi, réconciliation entre les économistes et des banquiers centraux. Hein. Alors, je dirais que c'est rassurant et inquiétant à la fois. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'on obtienne la règle et qu'on comprenne à peu près bien sa logique dans un univers assez simple. Ce qui est inquiétant, c'est que la règle soit établie dans un monde dans lequel il n'y a pas de besoin de liquidité au sens strict. On est dans le monde sans besoin de liquidité, dont je ne suis pas sorti. Je suis toujours dans le parc du jardin. Et quand on sort un petit peu du monde très simple que j'ai ici, on reste quand même dans des mondes où il n'y a pas d'interaction entre ce qui se passe sur les marchés financiers, sur les marchés... monétaire, parce qu'il n'y a pas d'interaction entre monnaie et finance qui soit clairement établie. Ce qui, évidemment, est un problème tout à fait sérieux, étant donné ce qui s'est passé lors de la crise précédente, hein, et qui est un cadre beaucoup de gens, et la plupart des gens, sont maintenant convaincus qu'il faut essayer de comprendre les relations entre ce qui se passe sur les marchés financiers et ce qui se passe en termes de politique monétaire. Mais vaste problème. Où est-ce que j'en suis ? Oui, ah ben voilà, je vous redonne il s'était glissé à deux endroits, mais là c'est au bon endroit. Donc j'ai dit qu'il faut quitter le monde de référence. Hein. Il y a deux directions, hein, l'incomplétude et revenir sur l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Et j'ai fait une petite promenade dans ces problèmes, mais je vais maintenant oublier la recherche d'une théorie générale et porter l'attention sur un certain nombre de marchés. On va regarder un certain nombre de marchés concrets et revenir rediscuter de ces questions, mais dans le cadre de marchés concrets, sans prétendre vouloir faire une théorie générale qui peut-être n'est pas, comme dans le cas des bulles, est peut-être une mauvaise idée. On revient à la citation de Tolstoï, hein, toute une famille malheureuse, il y a autant d'histoires que de familles malheureuses. Donc il y a peut-être autant de théories du marché qu'il y a de types de marché. Bien, et donc dès la fois prochaine, donc on aura une heure, hein, donc on va revenir à des séquences d'une heure plus présentation d'exposé. Je crois que la fois prochaine, donc je vais parler du marché boursier. Et André Orléans donnera son grain de sel sur ce sujet. Et ensuite, on passera à d'autres types de marchés et éventuellement, on reviendra un peu à la macroéconomie. Je vous remercie.